dans des montagnes arides que des roches à perte de vue. Un horizon de pierre, écrasé de chaleur. Au loin, on aperçoit la mer, tel un mirage, si lointaine, pourtant si proche. Enfant de cette mer, les nuages s'élèvent, poussés par le vent et s'écrasent contre le flanc des montagnes. Pourtant ici, il ne pleut jamais. La terre est sèche. La vie, stérile. Toutefois, un arbre, le dragonnier de Socotra, se dresse fier et imposant, les bras déployés vers les cieux, les doigts caressant les nuages. L'arbre, espoir de vie parmi la mort, ne s'abreuve pas de pluie. Ses branches capturent la brume, comme l'enfant capture le papillon.
Un homme, assoiffé, épuisé, se dresse près de l'arbre, imitant tous ses gestes et sa physique. Les bras vers le ciel, lui aussi tente de capturer l'incapturable. Le nuage brumeux lui glisse entre les doigts. L'espoir de vie s'échappe avec le vent.
Histoire de savoir, les capteurs de brouillard, Amina Sidi Eklef et Abigail Frison. Bonjour à tous, je suis Amina Sidi Eklef.
Et je suis Abigail Frison.
Aujourd'hui, dans Histoire de savoir, on va parler de l'eau. Et plus spécifiquement, des nouvelles technologies qui permettent de récupérer de l'eau douce sans énergie.
Alors, dans le monde, le constat est alarmant. Selon l'ONU, la demande en eau a dépassé la croissance démographique. Dans les faits, la moitié de la population mondiale est déjà confrontée, au moins une fois par an, à une grave pénurie d'eau. Et ça, on le remarque aussi en Europe. Pour vous donner quelques chiffres, on est arrivé en 2022 à 2,2 milliards de personnes qui n'avaient pas accès à des services d'eau potable fiables. Dans la liste des zones les plus touchées, on retrouve l'Afrique du Sud, le Mozambique, le Brésil, la Bolivie. Mais des zones qui sont historiquement moins concernées commencent à le devenir, comme le sud de l'Europe ou même les États-Unis.
Et quand on parle d'accès à l'eau, il y a plein d'enjeux qui en découlent. La plus évidente, c'est la question de la santé humaine et de l'hygiène, avec un accès à de l'eau qui soit assainie. Mais derrière, ça impacte aussi la sécurité alimentaire. Moins d'eau, ça signifie aussi moins de culture, et moins de culture, moins de nourriture. Mais il ne faut pas oublier que sur cette question de la sécurité alimentaire et des cultures, les plus gourmands en eau, ce sont les cultures pour le bétail. Donc, moins d'eau, moins de nourriture pour le bétail. Et j'en profite pour glisser une petite info, que consommer moins de viande, ça permet fatalement d'économiser de l'eau. Les secteurs de l'industrie, de l'énergie sont aussi très dépendants de l'eau, c'est pas seulement pour la sécurité alimentaire, parce que l'eau, elle est nécessaire au refroidissement des centrales électriques, par exemple, au raffinage du pétrole et aussi aux cultures destinées aux biocarburants.
La situation, malheureusement, ne risque pas tout à fait de s'arranger. Certes, la croissance rapide de la population est une des raisons de cette raréfaction, mais clairement, le dérèglement climatique n'est pas étranger à tout ça. On parle bien de dérèglement climatique et non pas seulement d'un réchauffement climatique. L'atmosphère se réchauffe, ce qui assèche les fleuves, les rivières et donc les sols. Moins d'eau sur Terre, moins d'évaporation et donc moins de pluie. Le cycle de l'eau est compromis. Et puis, même quand la pluie est bien présente, vous le voyez, ça arrive de plus en plus souvent avec des grosses averses par exemple. Ce n'est pas l'idéal non plus. Quand la terre est habituée à la sécheresse, elle a énormément de mal à absorber des grosses quantités d'eau soudaines.
Donc clairement, avec le dérèglement climatique, la question de l'eau, elle est vraiment centrale. Comme ce problème, il se généralise, on a de plus en plus de recherches qui se font dans le monde sur le sujet pour trouver de nouvelles manières ingénieuses de trouver de l'eau potable. Et l'enjeu, c'est pas seulement de la trouver, mais bien de l'extraire et de l'assainir sans trop d'énergie ou d'effets négatifs sur la nature. Même ici à Bruxelles, où on n'a pas spécialement de problème d'eau, eh ben, y a des chercheurs et des chercheuses qui se penchent sur la question. Et aujourd'hui, on va parler d'une méthode très précise de récolte d'eau douce dans des territoires qui sont aride, qui s'appelle le capteur de brouillard. Alors Clément Witz, qui est un chercheur de l'ULB sur le sujet, nous expliquera ce que c'est, juste après une petite interlude musicale sous le soleil du mois d'août de Benjamin Biolay.
Soleil du mois d'août, sombre, la vie est sombre, et vous que devenez-vous? L'ombre qui vit dans votre ombre m'a tellement parlé de vous. Ivre, mon bateau ivre. Finir le livre où il s'arrête. Une plage s'échouer dessus. Une page qu'on n'avait pas lue. Ce n'est que l'ombre, l'ombre du début. Je comptais dessus. Triste que la vie est triste lorsqu'on a déjà tout bu. Douce, la pente est douce, l'été au rendez-vous. Tendre dans l'herbe tendre, sous le soleil du mois d'août.
C'était « Sous le soleil du mois d'août » de Benjamin Biolay.
Alors, comme nous venons d'en parler, les chercheurs et les chercheuses du monde entier se penchent de plus en plus sur la question qui est « Comment obtenir de l'eau douce par de nouveaux concepts et de nouveaux moyens ?» Des moyens comme la désalinisation de l'eau de mer, qui consiste à prendre de l'eau de mer et la rendre douce, ou encore l'ensemencement des nuages, qui est en fait un procédé qui consiste à influencer directement les précipitations en ajoutant des substances aux nuages.
Et j'ai même entendu parler, accroche-toi bien, d'une solution qui consisterait à remorquer des icebergs, donc ils les tirent en bateau vers des zones où on manque d'eau douce, pour les faire fondre. Mais il y a une solution qui a quand même retenu notre attention, c'est une technologie qui s'appelle du coup le capteur de brouillard. En gros, c'est dans les hautes montagnes désertes et arides, tu poses de grands filets à la verticale pour récupérer l'humidité des nuages qui passent et la transformer en eau potable. C'est assez dingue, l'idée elle existe et elle se développe depuis les années 90, mais il y a de plus en plus de recherches qui sont faites sur le sujet. Et dites-vous qu'ici même à l'ULB, des recherches sont faites sur les capteurs de brouillard, et notamment par Clément Witz. Alors lui, il travaille dans le cadre de son mémoire en sciences et technologies de l'environnement sur comment améliorer les mailles des filets du capteur de brouillard, et tout ça dans un but d'augmenter la quantité d'eau récoltée. Nous l'avons rencontré pour qu'il nous explique précisément ce qu'est un capteur de brouillard.
Un capteur de brouillard, c'est un dispositif, plus d'habitude un filet, qui est placé dans les zones arides ou semi-arides pour pouvoir récolter du brouillard comme source d'eau alternative. Ça peut avoir plusieurs formes en fonction de son utilisation. Globalement, c'est souvent un filet de 10 mètres sur 4 mètres pour avoir 40 mètres carrés de surface récoltable, qui peut être en polypropylène, en nylon ou en acier inoxydable, qui est placé entre des poteaux en métal et dont l'eau va s'écouler et être récoltée dans des gouttières qui peut être après stockée dans des bidons ou des citernes pour alimenter les populations locales.
Alors, on va beaucoup parler de nuages, de brume et de brouillard aujourd'hui, et on s'est vite fait demander avec Amina si c'était des synonymes. Alors, ce que Clément nous a expliqué, c'est que le brouillard et le nuage, c'est plus ou moins la même chose. La seule différence, c'est la proximité avec le sol. Les nuages, c'est dans le ciel, le brouillard, c'est près du sol, voilà tout. Et de ce que j'ai compris, la différence entre la brume et le brouillard, c'est une question de visibilité. On dit qu'il y a de la brume ou qu'il y a du brouillard dépendant de la distance où l'on peut voir quand on se trouve dans le dit brouillard ou la dite brume. Donc c'est plus une question d'opacité et moins une question de perspective. Et c'est pas non plus de la rosée, parce que la rosée, c'est les gouttelettes qui se posent sur des surfaces alors que le brouillard reste dans l'air et se déplace avec le vent. Donc dans ce cas des capteurs de brouillard, c'est bel et bien du brouillard, parce que ce brouillard traverse avec le vent les filets, les heurte et crée de l'eau.
Le brouillard, qu'est-ce que c'est ? C'est donc de l'air qui va être proche de la surface et qui va contenir des particules d'eau sous forme liquide. Donc c'est des micro-gouttelettes qui vont être entre 10 et 30 micromètres et l'eau va pouvoir être récoltée par ces dispositifs. En fait, pour que ça fonctionne, il faut avoir des brouillards qui sont des brouillards advectifs. Les particules d'eau vont se déplacer, donc vont être en mouvement et vont venir percuter les filets. Donc les micro-gouttelettes vont venir s'accumuler sur la surface, vont former des gouttelettes de plus en plus grandes et puis s'écouler par gravité dans une gouttière et va pouvoir être récoltée par la suite. L'eau qui va être récoltée donc, peut être soit stockée sur place dans des citernes, dans des bidons, soit être directement acheminée via des canalisations vers là où l'eau va être vraiment utilisée. Sachant que la plupart des champs de capteurs de brouillard sont situés des fois plus haut dans la montagne par rapport au village qui est plus en contrebas.
Clément Witt, il travaille au Fab Lab, le fabuleux laboratoire, un laboratoire au sein de l'ULB. Et ce laboratoire, il fait des recherches sur la géométrie des mailles, et lui, il s'est penché sur des mailles sans assemblage qu'on a juste à déplier. Et ces mailles, on les appelle kirigami en japonais.
Alors, je ne sais pas pour toi, Amina, mais moi, je ne connaissais pas ce mot avant. Mais en fait, le principe, on le connaît tous. On l'a tous fait à l'école. C'est quand on prend une feuille de papier, qu'on la plie, qu'on découpe dedans, et que quand on la déplie, bah ça fait une sorte de frise avec des motifs.
Voilà, c'est ça le kirigami. Et c'est cette méthode que les chercheuses de l'ULB veulent reproduire dans la production des filets à brouillard. Par contre, Clément, lui, il a une spécialité dans sa recherche.
Donc pour mon mémoire, je teste un film d'hydrogel comme revêtement pour voir si l'efficacité de collecte et de drainage de l'eau sur les mailles peut être améliorée. Donc moi, je viens juste changer la texture, donc changer un revêtement par-dessus, pour voir si ça peut jouer sur cette récolte. Donc l'hydrogel, c'est quoi ? C'est en gros un matériel qui a une forme tridimensionnelle, contenant un réseau de polymères, en fait, qui va capter l'eau et qui va donc emprisonner l'eau et permettre d'avoir une plus grande absorption de l'eau sur le filet et s'écouler plus rapidement, donc relâcher l'eau plus rapidement. Donc ça a des propriétés hyper intéressantes pour ce qui est de la récolte d'eau en général.
Et donc, comme l'explique Clément, lui, sa recherche se fait sur la texture et donc l'hydrogel. Et ce qu'il nous expliquait, c'est que les recherches faites sur ces textures-là vont dans deux directions assez contraires. C'est-à-dire qu'il y a des chercheurs et des chercheuses qui se concentrent sur des matières dites hydrophiles et d'autres sur des matières dites hydrophobes. Hydrophiles sont celles qui attirent l'eau. Donc l'idée est de faire une texture pour le filet qui attire l'eau, qui la capte, qui l'encercle et qui, comme ça, peut permettre une capture d'eau plus efficace. C'est le cas de Clément avec l'hydrogel. Les autres chercheurs se concentrent plus sur les matériaux hydrophobes, donc l'idée dans ce cas-là est d'utiliser une texture qui va rejeter l'eau et donc la repousser et la faire tomber plus vite en plus grande quantité. Donc en fait, c'est très intéressant parce qu'il y a deux types de recherches pratiquement contraires qui essayent de trouver le matériau qui pourrait maximiser la quantité d'eau recueillie.
Et là, on parle bien de matériaux de la maille du filet, mais en fait, l'essentiel des recherches, elle se concentre sur la forme de la maille. Quelle est la meilleure forme de maille pour capturer l'eau des brouillards? C'est la question. Et comme dans beaucoup de domaines, l'humain, il aime s'inspirer de ce qu'il voit, de ce qui existe déjà et surtout de ce qui fonctionne dans la nature. Alors, il existe des cactus ou encore même des scarabées qui jouent sur leur forme de carapace pour les scarabées, sur leur forme d'épine pour les cactus, pour mieux capturer l'eau.
Mais nous, on a trouvé que pour le capteur de brouillard, ce qui ressemblait le plus, c'est ce qu'on appelle le dragonnier de Socotra. Imaginez un grand arbre qui ressemble à un parasol ou encore une girole qui se trouve dans les hautes montagnes arides et qui va capter l'eau directement par ses branches. Donc pour l'imaginer, on dirait comme un réseau de racines, mais au niveau des branches, avec au bout un feuillage épineux qui va récolter directement l'eau dans le brouillard et dans le nuage au lieu d'aller le chercher sous terre.
Mais ce qui est drôle dans cette histoire, c'est qu'au-delà de toutes ces recherches un peu savantes, le filet du capteur de brouillard qui est majoritairement utilisé actuellement, eh bien il est fait avec quelque chose qu'on a tous et toutes chez nous.
Donc actuellement, les mailles la plus simple est une maille en polyéthylène. Les mailles utilisées sont les mêmes que pour les sacs à patates qu'on trouve dans les supermarchés, qui sont en fait des triangles. Donc c'est des bandelettes de 1 mm sur 0,1 mm, donc sous forme de triangle, qui permettent un écoulement beaucoup plus rapide de l'eau. Donc les gouttelettes vont grossir et vont s'écouler rapidement vers un triangle inversé. C'était les plus abordables et les plus bon marché, et celles qui sont du coup les plus utilisées, mais aussi les plus fragiles. Mais il existe maintenant, donc, par exemple, une société en Allemagne a créé des filets qui s'appellent des Cloudfishers, qui sont des doubles mailles avec une structure qui est beaucoup plus complexe et qui permet un rendement beaucoup plus important, mais évidemment qui est beaucoup plus cher à produire et donc à installer aussi.
Donc ce que nous explique Clément, c'est qu'il y a pas mal de recherches qui se fait sur les matériaux et sur les formes, mais pour ces recherches, ce qu'il faut, et ce que Clément nous a rappelé, c'est qu'il faut que ces capteurs de brouillard soient dans des endroits donnés, spécifiques, avec quelques conditions. Déjà, il faut qu'il y ait de la sécheresse, sinon il n'y a pas vraiment d'intérêt et les recherches ne seront pas concluantes. Mais il faut aussi des montagnes. En vrai, c'est assez logique. Pour attraper du brouillard, il faut se situer assez haut.
Et entre nous, quand on regarde ces conditions, donc je le répète très vite fait, des montagnes, de la sécheresse, en gros, on est assez loin quand même de l'environnement bruxellois. On va pas vous mentir, on s'est demandé avec Abby comment des chercheurs et des chercheuses peuvent faire des expériences sur les capteurs de brouillard à Bruxelles. Vu qu'il n'y a pas de sécheresse, clairement pas, et pas de montagne, on fait comment pour recréer les conditions environnementales d'un lieu désertique, et ça, en pleine capitale? Alors, le Fab Lab et l'ULB ont trouvé la solution.
Donc, au Fab Lab, en fait, là, c'est surtout je fais mon mémoire au Frugal Lab, donc qui est un département de recherche du Fab Lab, et ils ont mis au point un dispositif qui permet justement de simuler un brouillard. Donc ça permet juste de pouvoir placer des échantillons de filets et de comparer les efficacités, que ce soit pour la récolte ou bien le drainage de l'eau. Et c'est grâce à ça que je peux faire mes expériences et pouvoir voir si les résultats sont concluants ou pas. Donc, le simulateur utilisé, donc, c'est un récipient dans lequel il va avoir un nébulisateur piézoélectrique, donc qui va vibrer et produire des gouttelettes, donc un air rempli de gouttelettes, qui est un brouillard, et va être envoyé dans un petit tunnel, donc un tube, qui va envoyer, avec l'aide d'un ventilateur, le brouillard sur les échantillons, et qui va être après analysé avec des balances pour voir l'eau récoltée.
Alors maintenant qu'on a fait un bon petit tour sur les détails de la maille, sur les conditions climatiques, tout ça, on va sortir un peu la tête du labo. Mais avant ça, on va s'accorder une petite pause musicale avec Vízbőven, ce qui veut dire « c'est fait d'eau » de Platon Karatáev, un groupe de musique hongrois.
Dervis táncot jár a hold, avec ta lampe les matos derviche tantôt yarana arnikom belé mara
C'était donc Vízbelvan de Platon Karataev, des jeunes Hongrois. Le titre de la chanson se traduit par « C'est fait d'eau ».
Revenons maintenant au cœur du sujet, les capteurs de brouillard. En résumé, ce qu'on comprend, c'est que pour que ces capteurs de brouillard soient utiles et surtout efficaces, il faut quand même pas mal de conditions. Comme on l'a dit juste avant, il faut des montagnes situées dans un environnement assez sec. Alors oui, mais pas seulement. Pour que des brouillards se forment, il faut une mer à proximité. Alors très grossièrement, je vous refais le cycle de l'eau. Alors, le soleil va réchauffer par ses rayons l'eau de la mer. Du coup, une partie de cette eau de mer va s'évaporer, l'eau va se refroidir, elle se condense et va former de mini-gouttelettes invisibles à l'œil nu. Et ça va donc former des nuages dans l'atmosphère. Et pour que les capteurs de brouillard, qui sont, je le rappelle, situés sur des montagnes, puissent accéder à ces nuages, eh bien, il faut du vent pour les déplacer. Le vent déplace les nuages d'au-dessus de la mer jusqu'aux montagnes. Et c'est donc là que les brouillards en question atteignent les filets des capteurs de brouillard.
Et en fait, s'il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est l'importance des saisons. Dans les zones sèches, le brouillard n'est clairement pas présent toute l'année. En général, il y a des saisons plus sèches et des saisons plus humides. Les capteurs de brouillard ne sont donc pas efficaces chaque mois et constamment toute l'année. Mais de ce que Clément nous a expliqué, c'est que les quantités d'eau récoltées lors des saisons brumeuses permettent clairement au dispositif d'être rentable toute l'année. On parle de quantités suffisantes pour que toute l'année, l'eau soit accessible de manière stable. Et pour déterminer les territoires où ces conditions sont respectées, il y a des tests qui sont faits. Donc, pour voir l'efficacité de la technique du filet de capteur de brouillard, ils vont mettre des plus petits filets en premier et tester. Et si ces filets sont efficaces, placer les plus grands filets qui vont capter les réelles quantités d'eau.
Tout d'abord, quand on veut installer un filet, d'abord installer un SFC, donc un Standard Fog Collector, qui va être un filet de 1 mètre sur 1 mètre, pour déterminer si il y a suffisamment de brouillard possible et une récolte suffisante pour être utilisable en fait. Et après, quand c'est concluant, il va avoir l'installation de plus larges filets, des LFC, donc Large Fog Collector, qui vont avoir un rôle d'alimentation pour les populations. On peut savoir que la plupart des filets récoltent entre 1 et 30 litres du mètre carré par jour. Du coup, un grand donc LFC va récolter environ 200 litres par jour. Et du coup, la plupart du temps, donc dans les villages ruraux, on va installer entre 5, 10 et même voire 100 LFC, ce qui peut aller jusqu'à 15 000 litres en moyenne, avec des jours où il y a 100 000 litres, par exemple.
Alors, on s'est demandé avec Abby, et peut-être comme vous aussi les auditeurices, si l'eau récoltée des brouillards, elle était potable. Parce que c'est vrai que si le processus pour rendre l'eau potable, après l'avoir captée des nuages, ce processus était hyper fastidieux, hyper cher, bah ça rendrait la technologie très peu rentable.
Eh bien, Clément nous a finalement confirmé que l'eau récoltée par les capteurs de brouillard était bien potable, des tests ont été faits. Et en plus, les lieux dans lesquels sont installés ces capteurs de brouillard sont des zones très peu peuplées, voire désertiques. Donc, dans ces lieux, il y a très peu de pollution dans l'air. Donc, dans les faits, les petites gouttelettes de brouillard ne sont pas souillées par d'autres particules polluantes.
Et avec tous ces avantages, c'est vrai que cette nouvelle technologie du capteur de brouillard, bah, il vend un peu du rêve. Après, quand on dit « nouvelle technologie », ça reste quand même à relativiser.
Donc déjà, la récolte du brouillard, ça existe depuis très longtemps. Donc déjà, à l'époque, c'est qu'aux îles Canaries, ils utilisaient, par exemple, les feuilles de séquoia où ils mettaient des vases en dessous pour récolter l'eau. Mais les collecteurs de brouillard, donc, comme on les voit actuellement, ils existent depuis la fin des années 80-90, donc développé par FogQuest, et ils ont été installés tout d'abord au Chili. Et en fait, du coup, FogQuest, vu que ce dispositif fonctionnait très bien, a eu des projets un peu partout. Et maintenant, donc, on peut retrouver des collecteurs, que ce soit au Chili, au Guatemala, aux îles Canaries, en Sultanat d'Oman, même en Europe, on en retrouve en Espagne ou en Croatie. Pour l'instant, les filets qui sont utilisés, ils sont vraiment très bon marché. Donc on va dire que pour un filet qui est juste un filet de test d'un mètre carré, c'est environ 150€, 100 à 150 euros pour l'installation, donc le coût en matériaux. Et pour un large LFC, donc Large Fog Collector, c'est environ 1000 à 1500 euros pour l'installation. Et après, il y a les coûts de maintenance, évidemment. Mais par rapport à d'autres sources d'eau, c'est dérisoire, donc c'est vraiment très intéressant au niveau du prix. En fait, ce qui est déjà intéressant, c'est qu'en fait, c'est une technologie qui est low-tech. Donc, en fait, ça n'a pas besoin d'énergie pour fonctionner. Surtout car on peut diminuer le prix grâce à ça. Et en même temps, on peut impliquer très facilement les populations locales, en fait. Donc, c'est ça qui est intéressant dans le projet, c'est que c'est un projet qui est local. Donc, c'est pour impliquer et faire travailler les communautés sur place et les sensibiliser et qu'elles ont un rôle, en fait, dedans. Donc, déjà, ça va leur permettre d'être autonomes en eau, de les sensibiliser, parce que pour l'instant, on se rend compte que les projets, c'est pas forcément du côté rendement qu'il y a beaucoup de problèmes, mais c'est aussi beaucoup d'acceptation, on va dire, de la population au niveau des projets, donc pour que les populations se sentent concernées et veuillent eux-mêmes faire la maintenance des filets et se rendent compte qu'en fait, c'est hyper intéressant pour eux. C'est vrai que, par exemple, c'est souvent les enfants et les femmes qui vont récolter de l'eau, par exemple dans des puits, etc., donc au fond des vallées, donc les villages sont dans les montagnes. Ça permet de grâce à ça, de libérer de cette charge. Du coup, c'est hyper intéressant aussi. Ça permet de revaloriser l'économie, par exemple, pour l'agriculture. Donc, comme je l'ai parlé tout à l'heure, il y a des fermes d'aloe vera qui permettent justement d'augmenter le commerce et, dans ces populations. Un projet qui est très, qui se veut être justement pas, on apporte la science, c'est fait. Donc, c'est bien que ce soit aussi produit avec des matériaux. Donc, l'innovation va aussi vers les matériaux qui sont durables et produits localement. C'est quand même hyper important, je trouve, dans des projets comme ceci. C'est aussi intéressant parce que c'est assez simple en fait. C'est juste attacher un filet à deux poteaux et ça récolte de l'eau. C'est quand même un peu magique. C'est vrai que comparé à des méthodes chimiques ou physiques de désalination de l'eau ou d'ensemencement de nuages, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. Donc, ce qui est aussi intéressant, c'est que ça peut être des projets locaux et globaux. Donc, ça peut être un projet qui est à l'échelle, à plus grande échelle, donc à l'échelle d'un village. Mais ça peut être aussi des projets qui peuvent être à l'échelle d'une plantation, par exemple, d'aloe vera au Chili, ou une école, ou même une maison, etc. Donc, c'est intéressant aussi parce que ça peut être très adapté en fait, aux besoins.
Donc, de ce qu'il nous dit, Clément, depuis le début, c'est que les capteurs de brouillard, c'est pas cher, ça consomme pas d'énergie, c'est facile à installer, ça implique les populations locales, ça récolte des larges quantités d'eau et cette eau est directement potable. Ça vend quand même du rêve.
Après, je me fais peut-être un peu l'avocat du diable, mais à chaque fois qu'il y a une méthode révolutionnaire pour capter de l'eau, il y a toujours un point négatif. Comme si ça réglait un problème quelque part, mais ça en créait un autre ailleurs. Et c'est ça qu'on a voulu savoir avec Abby, c'est le point noir, le point négatif du capteur de brouillard. Parce que c'est vrai que cette technologie semble un peu trop parfaite pour récupérer de grandes quantités d'eau potable sans apport d'énergie extérieure.
Donc c'est vraiment un sujet qui est hyper en développement et surtout l'innovation. Donc pour l'instant, en fait, le problème des filets, c'est que les mailles sont très peu résistantes. Donc elles sont faciles à produire, mais très peu résistantes. Et comme elles sont installées dans des environnements qui sont souvent en haute altitude, elles vont être soumises à un fort rayonnement UV et à des vents très violents qui vont souvent abîmer les mailles. Donc pour l'instant, l'innovation pour avoir des mailles qui sont beaucoup plus résistantes, aussi bon marché, parce qu'il existe aussi d'autres mailles qui ont été créées, mais qui sont beaucoup plus résistantes, mais qui sont beaucoup plus chères. Comme elles doivent être installées dans des populations rurales assez pauvres, c'est difficile d'installer des projets qui sont vraiment très chers. Du coup, voilà, c'est l'innovation un peu du moment, c'est de créer des mailles les plus efficaces possibles au moindre coût. Donc c'est ça qui galvanise la recherche pour l'instant sur le sujet. Un des points négatifs, c'est que c'est juste que c'est très localisé et très saisonnier. Donc, c'est pas fiable tout le temps, mais ça récolte une très grande quantité d'eau qui peut être stockée dans des citernes et qui peut être utilisée par la suite.
Donc, ce sur quoi Clément insiste beaucoup, c'est qu'on a de base des filets accessibles et peu chers, mais très peu résistants et donc peu durables. Des filets de sac à patates qui résistent que peu au soleil ou au vent et qui nécessitent donc d'être remplacés assez fréquemment. Et d'un autre côté, on a des recherches faites sur des nouveaux types de filets super résistants, durables et efficaces, mais qui, directement, de facto, sont très chers et donc très peu accessibles. Donc l'enjeu central de la recherche, selon lui, c'est de trouver des matériaux et des formes de filets qui seraient résistants, durables, mais toujours peu coûteux.
Avec Abby, on a fait pas mal de recherches pour cette émission, vous vous en doutez, et au final, la question la plus logique, on se l'est posé à la fin. Parce qu'à chaque fois qu'on va chercher de l'eau ailleurs, ça crée un problème autre part. Du coup, au fond, on s'est demandé, est-ce que capter des nuages, ça dérègle pas un peu le cycle de l'eau ?
En fait, aux échelles de la nature, l'eau récoltée, c'est dérisoire, en fait. Donc ça va avoir aucune influence sur la nature ou sur la quantité d'eau en général. Justement, c'est un avantage parce que ça peut permettre, par exemple, la réforestation. Et si l'eau est bien redistribuée, elle peut justement... c'est que du positif. Évidemment, on peut gêner le paysage ou gêner les oiseaux qui voudraient passer. Mais honnêtement, c'est pas là que le problème va vraiment être, en fait.
Donc bon, Clément, il a été très clair et net sur cette question. Les capteurs de brouillard tels qu'on les a aujourd'hui n'ont aucun effet néfaste sur le cycle de l'eau ou sur l'écosystème. Il a comparé cette méthode au fait de se servir un verre d'eau dans une rivière et se demander si cette eau va pas manquer autre part. Les quantités d'eau récoltées par les capteurs sont au final insignifiantes par rapport à l'eau contenue dans les nuages dont on les extrait. Et cette eau, en général, elle est très vite utilisée et non pas stockée indéfiniment dans des citernes. Donc, au final, elle ne quitte jamais vraiment le cycle naturel de l'eau.
Dans l'orage d'une forêt sans âge, aux abords du Poitou, à l'automne où je vivais chez vous, j'ai vu le visage d'une enfant sauvage qui portait un bijou, les yeux verts noyés de cheveux roux. À l'automne où je vivais chez vous, Dieu fait des images avec les nuages, la pluie fait des miroirs dans la boue. Je t'ai cherché partout, je garde un mirage dans une drôle de cage, comme savent construire les fous. Je t'ai cherché partout. L'âge des vagabondages, pieds nus sur les cailloux, dans les rivières où viennent boire les loups. À mon passage, elle a pris mon bagage, elle m'a suivi partout, jusqu'à l'étage où j'avais mon verrou. Les yeux verts noyés de cheveux roux. Dieu fait des images avec les nuages, la pluie fait des miroirs dans la boue. Je t'ai cherché partout, je garde un mirage dans une drôle de cage, comme savent construire les fous. Je t'ai cherché partout. C'était un message, vous me plaisiez beaucoup, mais je ne pense pas avoir besoin de vous. Les yeux verts noyés de cheveux roux. Dieu fait des images avec les nuages, la pluie fait des miroirs dans la boue. Je t'ai cherché partout, je garde un mirage dans une drôle de cage, comme savent construire les fous. Je t'ai cherché partout, je t'ai cherché partout, je t'ai cherché.
C'était Émilie Loiseau avec sa reprise de la chanson de William Scheller, Miroir dans la boue.
Un capteur de brouillard, c'est donc une méthode pas si récente de récolte d'eau douce, mais qui inspire les chercheurs et les chercheuses d'aujourd'hui. Et pour être honnête, de notre côté avec Abby, on a trouvé cette histoire de capturer des nuages hyper poétique, et on a voulu vous la partager. En plus, on n'en avait jamais entendu parler, et au début, on avait même beaucoup de mal à imaginer à quoi ça pouvait ressembler.
Et puis, plus on avançait dans les recherches, plus on se disait que c'était un objet sorti tout droit du Petit Prince. Et même, pour celles d'entre vous qui sont déjà allés voir le nouveau Dune au cinéma, cette technologie est clairement sortie directement de cet univers-là. En tout cas, ça avait l'air presque irréel, sorti d'un autre monde et très très poétique. C'était donc Histoire de savoir, les capteurs de brouillard, avec la participation de Clément Witt. Nous, c'est Abigail Frison.
Et Amina Sidi Eklef.
Merci beaucoup.
Pays de brume et de brouillard, qui se lèvent comme des spectres, au-dessus des cours d'eau et des pâturages. Pays humide, au matin glacé, au silence paisible, au silence de mort. Voilà que perce le soleil des timides, à travers vos voiles d'araignées, où perlent les gouttes de rosée, sur les toiles déposées comme du linge à sécher, par de minuscules et habiles tisserandes. Guillaume Prével, pays de brume et de brouillard.